Contes d'Argonne, réunis par Nicole Gérardeau. L'étang maudit. Au mois d'avril 1429, date à laquelle Jeanne, la bonne Lorraine, chevauchait pleine d'espérance la lance au poing vers la royale ville de Chinon, les habitants de la marche orientale de Champagne, proche du duché de Bar, passaient les jours et les nuits en transe et en terrible frayeur. Des bandes à demi sauvages de détrousseurs mettaient à feu et à sang cette fatale contrée. Un groupe de routiers, au hasard de ses aventures, vint dans le même temps investir momentanément son quartier général au fort Chastel de Givry en Argonne, situé à la lisière de vastes forêts à une lieue au plus de la frontière du Barrois. Le capitaine, qui commandait l'étrange garnison du Chastel de Givry, venait, un certain après-midi, de regagner en bâillant la grande salle du donjon dans laquelle il avait élu domicile. C'était une vaste pièce carrée, à cheminée monumentale. Au hasard de son va-et-vient taciturne, Jacob Tourlac, c'était le nom du peu intéressant personnage, jeta à travers le châssis de plomb du vitrail délabré un regard distrait sur l'enclos voisin. Une jeune paysanne, inconsciente de sa présence, vint étendre sur quelques perches à peine dégrossies, posées en face de la fenêtre, le linge ruisselant qu'elle rapportait de la bieue. Jacob Tourlac, en parfait soudard, fit appeler dans la grande salle Maude Mirail, antique gouvernante du château, et lui enjoignit, d'un ton qui n'admettait pas d'objection, de lui amener sur le champ la rustique beauté. Maude jeta par la fenêtre un rapide et triste regard, soupira, mais, habituée dès l'enfance à l'obéissance passive, exécuta d'un pas résigné l'ordre qui lui avait été donné. Quelques instants après, Paquette, toute confuse, comparaissait devant le maître momentané du château. La chronique ne donne aucun détail sur l'entrevue qui suivit. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que la jeune paysanne, qui depuis un an était femme à Jacquemin Thibault, bosquillon de son état, sortit de la tour fortement échevelée et la gorgerette toute défaite. La scène, quoique violente, avait dû se terminer à son avantage car Joseph Tourlac paraissait furieux. Serrant de ses doigts noueux le bras meurtri de Paquette, il la conduisit sans un mot, frissonnante de larmes, vers un cellier abandonné que fermait dans un coin de la cour une porte de chêne à massive serrure. Il y poussa brutalement la malheureuse, posa à l'intérieur, sur les marches de l'escalier, la moitié d'un pain qu'il avait aperçu pendant le trajet sur une table garnie de victuailles, ajouta au pain bis une cruche d'eau oubliée près du puits et ferma soigneusement la porte à double tour. Après avoir passé la lourde clé dans sa ceinture, il rentra dans la tour en sifflant. Les soudards qui, assis sur des bancs improvisés dans la cour du château, abattaient bruyamment leurs dés sur des tables crasseuses, ne s'intéressèrent nullement à cette barbarie d'île. Jacob Tourlac était un homme dans la force de l'âge, dont le visage énergique n'était pas dépourvu de régularité, mais dont la vie de violence et de débauche avait prématurément flétri les traits. Sur sa face tourmentée se lisait en rides caractéristiques l'esprit de domination et la cruauté. On le disait bâtard de grande famille. Il proposa à plusieurs compagnons désœuvrés de faire une promenade à cheval près du village, aux abords de l'étang. Quelques instants après, vêtu de peau tannée, bardée de fer, la colimarche au côté, les aventuriers chevauchaient, leur chef en tête, à travers les rues sordides du village, faisant, au seul bruit du pas de leur monture, un vide immédiat devant eux. Au pied de la colline, derrière un moulin délabré, aux toitures en ruine, à la roue désormais muette, s'étendait sous un ciel gris un assez vaste étang, qui autrefois avait pu être l'objet d'un entretien suffisant, mais qui, complètement oublié depuis les guerres, avait fini, après des années d'abandon, par prendre l'aspect impressionnant d'un site de désolation. Dans une eau fétide et croupissante que survolaient des légions de moustiques, d'immondes batraciens grouillaient, et Vincent, à jamais la tanche appétissante, la perche à la course rapide et la carpe pansue aux chairs savoureuses. Une odeur pestilentielle se dégageait des bas-fonds. Jacob Tourlarque avait un but très précis, que ne soupçonnait aucun de ses compagnons. À un quart de lieue du moulin, sur le bord du talus en pente rapide qui de ce côté bordait le triste marécage, un jeune bûcheron coupait paisiblement les branches d'un saule. La petite troupe, sur un signe de son chef, s'arrêta près de lui.
« Hé, Manon, qui es-tu ? »
interrogea le capitaine.
« Jacquemin Thibault, de la paroisse de Givry, » répondit le paysan.
« Bien, jette ta serpe. Tu vas sur le champ partir pour Pierrefitte, où tu porteras à Messire Perrin de Montdoré, tu entends, un message que je vais te donner. »
« Pierrefitte ? Où est-ce ? » ?»«
En Barrois, devant toi. Tu demanderas le chemin. »
« Est-ce que c'est loin ? » ?»«
Tu verras quand tu seras arrivé. » »«
Mais
il n'y a pas de mais ! Obéis ! » !»«
C'est que, si c'est pour la chevaucher, on n'est pas obligé d'aller à plus de 10 lieues.
Tu connais les lois, je vois que tu es savant. C'est bien, tu n'en feras que mieux la commission. »
Jacquemin, stupéfait de l'infortune qui lui survenait si inopinément, ne bougea pas.
Attends un peu.
Deux cavaliers qui, pendant le dialogue qui précède, avaient mis pied à terre, le ligotèrent en un tour de main. Le malheureux, instinctivement, poussa ce cri de protestation.
« Les verras !»
Le capitaine exultait. Il continua froidement.
« Je vois que tu es fou. C'est un bain qu'il te faut. Attention. Une, deux... »
Les deux cavaliers, d'un mouvement rythmé, balancèrent l'infortuné. L'étang était à 6 pieds plus bas. Jacquemin se sentit perdu.
« Bandit ! »
s'écria-t-il.
« Si je meurs, je te retrouverai. Mon âme te suivra partout où tu iras. Malheur à toi !»
Le corps, lancé avec précision, tomba au plus profond de l'eau. Dans un remous, il disparut. Tourlac, au retour, paraissait fort joyeux. Il s'entretint gaiement le long du chemin, avec ses rudes compagnons, enchantés, eux aussi, de cette petite diversion. La nuit suivante, il y eut, comme de coutume, bombance au château. Ce ne fut que le lendemain, dans l'après-midi, que Tourlac parut songer à sa prisonnière. Il n'était nullement nécessaire d'user vis-à-vis d'elle de précipitation, puisqu'elle était désormais à sa merci. D'un cœur allègre, le capitaine traversa l'étroite tour, encombrée pour l'instant de fourgons et de charrettes volées, au hasard des rencontres. Cette cour, de 3 côtés, était fermée de hautes murailles de briques. Sur le quatrième se dressait, sorte de prison sinistre, le donjon, grosse tour carrée, aux murs de briques rougeâtres encadrés de pierre. Au sommet de ces 4 étages massifs, des combles démesurés étaient surmontés d'une guette, aux lanternes ajourées, où jour et nuit, des sentinelles veillaient. Tourlac se dirigea vers le cachot improvisé, où il avait si peu galamment enfermé la malheureuse Paquette. Il détacha de sa ceinture la lourde clé, l'enfonça dans la serrure et la tourna 2 fois d'une main vigoureuse. Le capitaine avait le sourire sur ses lèvres. Dès que la porte fut ouverte, il jeta un coup d'œil rapide sur la sombre cellule. Ses traits se contractèrent subitement. Son visage pâlit. La cellule était vide. le cellier était éclairé par une étroite fenêtre donnant sur les fossés du château. La base de celle-ci se trouvait à 7 ou 8 pieds du sol et était, par conséquent, inaccessible à une femme. Mais dans le cellier sans emploi étaient restés, vides et hors d'usage, plusieurs poinçons, barils ou futailles de dimensions variées. En posant 2 ou 3 de ces récipients l'un près de l'autre, il n'avait pas été difficile à la prisonnière d'improviser une sorte d'escalier permettant d'atteindre sans danger la base de la fenêtre. Au-dessous de cette ouverture, à l'extérieur, une étroite bande de terrain longeait le pied de la muraille, qu'elle séparait d'un fossé assez profond, envahi par les herbes, mais aux 3/4 privé d'eau. Paquette n'avait eu aucune peine à se glisser dans l'embrasure. Elle s'était ensuite laissée tomber au hasard sur l'argile humide qui bordait la douve et était parvenue, en se résignant à un bain partiel, à franchir le fossé sans accident. Les criminelles manœuvres de Tourlac étaient, du moins pour l'instant, déjouées. Homme de ruse et d'expédient, il ne s'en affecta pas outre mesure. Il ne s'agissait en somme que de retrouver la fugitive, laquelle ne pouvait être allée bien loin. Le capitaine rassembla ses hommes et leur donna des instructions nettes et formelles, en exécution desquelles la centaine de masures au toit de chaume, aux cloisons de torchis ou de roseaux, qui composaient alors la paroisse, fut inspectée de fond en comble. On n'épargna ni la paisible demeure du curé, ni celle plus modeste du lieutenant de justice et du sergent royal, les 3 autorités du lieu. Caves, greniers, étables, granges, poulaillers, appentis de toutes sortes, rien n'échappa de complètes et minutieuses investigations. Les manants les plus récalcitrants, sous la menace de se voir rôtir immédiatement la plante des pieds, durent ouvrir toutes grandes les portes de la moindre de leurs armoires et lever avec empressement le couvercle enfariné de leur huche à pain. Il fut avéré que Paquette n'avait trouvé là nul refuge et que ses plus proches parents, eux-mêmes, ignoraient absolument ce qu'elle avait pu devenir depuis la veille. On avait seulement remarqué que Jacquemin Thibault n'était pas rentré chez lui à l'heure du souper. Mais personne ne s'était inquiété de ce retard inaccoutumé. Peut-être s'était-il attardé à poser quelques cordeaux clandestins dans le ruisseau qui, depuis Noirlieu, descendait vers l'étang. Et le lendemain matin, sans doute, était-il parti de très bonne heure à son travail. Tourlac résolut d'explorer les environs et envoya quelques cavaliers dans ce but dans les localités voisines. Ceux-ci revinrent au bout de peu de temps, avec la certitude qu'on n'y avait pas vu Paquette, ni la veille, ni le jour même. Il restait à sonder les broussailleuses forêts qui, au nord, au levant et au midi, encerclaient le village. En stratège expérimenté, le capitaine réquisitionna, sous menace d'être pendu au écourt en cas de trahison, une 50aine d'hommes valides parmi les habitants du village. Les divisa en plusieurs groupes qu'il plaça sous le commandement de ses hommes et confia à chacun de ces groupes la mission de parcourir un canton de forêt clairement délimité. Lui-même devait se porter à cheval là où il le jugerait à propos, au hasard de ses inspirations. Sur le soir, vers 5h, Paquette n'était pas encore retrouvée. Tourlac, à ce moment, fouillait avec rage au midi du territoire, une portion de forêt appelée le bois de Saint-Marc. Lorsque le soleil disparut de l'horizon, le capitaine battait encore les halliers et les fourrés. Il l'écumait. La nuit vint. À cet instant, une bande de loups, en quête de provende, poussa au levant des hurlements lugubres. Le cheval de Tourlac, avec un frisson d'effroi, s'enfuit au galop dans la direction du château. Tourlac, pestant et jurant, allait abandonner sa poursuite quand, dans un silence momentané des loups, il lui sembla entendre, derrière un fourré, une sorte de sanglot étouffé. Il s'élança au milieu du roncier et,
à quelque distance, vit s'enfuir une femme épouvantée qui ne pouvait être que Paquette. C'était en effet la fugitive. Celle-ci courait au hasard, ne sachant où elle allait. À 100 pas de là, le sinistre étang qui surgit devant elle lui barra la route. Au moment où, épuisée, elle allait défaillir, elle eut, par miracle, la chance d'entrevoir, près d'un saule, une barque abandonnée. Elle y sauta vivement, saisit la perche qui naguère avait servi à la faire mouvoir, la plongea dans l'eau et pesa de toutes ses forces sur ce frêle point d'appui. La barque, sous la violente poussée, fut projetée vers le milieu de l'étang, tandis que la perche vermoulue se brisait par le milieu, laissant la nacelle voguer à la dérive. À ce moment, avec le fracas d'un sanglier surgissant de sa bauge, Tourlaque apparut sur le bord. Devant lui, par une étroite percée pratiquée par la faux dans un massif de roseaux, s'entrevoyait vaguement le lourd esquif, suffisamment distinct, malgré la brume épaisse, pour ne pouvoir échapper à son œil de fauve. Le capitaine était bon nageur. Il sauta sans hésiter dans l'étang. En quelques enjambées, car le marécage de ce côté n'était pas très profond, le routier parcourut à pied la moitié de la distance qui le séparait de la barque. Soudain, Tourlaque perdit pied. Ses jambes nerveuses s'enfonçaient sans qu'il pût réagir dans une vase gluante. Vainement, essaya-t-il de se dépêtrer. Le bandit blasphéma. Une solide étreinte dont il ne pouvait se dégager l'attirait irrésistiblement vers l'argile traîtresse. Il lui sembla, sensation horrible, que deux mains invisibles serraient ses chevilles entre des doigts de fer. Ses dents claquèrent. Jacquemin Thibault, qui au même endroit l'avait maudit la veille, était-il là, étendu au fond de l'eau, exécutant ponctuellement cette terrible promesse? Tout à coup, ses yeux sortirent de leur orbite. À deux ou trois brasses de l'endroit où le misérable se sentait rivé, une boule de feu de couleur verdâtre, de la grosseur d'une tête d'homme, rasa en sautillant la surface de l'eau. Elle s'approcha de Tourlaque, haletant, passa à sa gauche, se posa derrière lui, glissa ensuite brusquement à sa droite, puis elle s'arrêta un instant, se rapprocha peu à peu et décrivit un nouveau circuit. L'apparition, en se mouvant, ricanait. Un grésillement sardonique s'échappait de cette forme flottante qui certainement était ou avait été un être vivant. Le vieil étang était un lieu tragique. Tourlaque vit de ses yeux, présente à sa propre agonie, l'âme errante de la mort de la veille, de l'infortunée Marie de Paquette, traîtreusement et lâchement assassinée par lui. Dégagé des liens terrestres, l'esprit du trépassé poussait sans répit vers la tombe mouvante de l'étang, le corps plein de vie de son indigne bourreau. Tourlaque, sans y réussir, essaya de fermer les yeux. Il fit un suprême effort pour se dégager de l'horrible étau qui se resserrait de plus en plus. Après quelques minutes de souffrance indicible qui lui parurent être des siècles, le bandit s'engloutit vivant dans la vase. Le lendemain matin, des laboureurs, se rendant à l'étang à leur travail, aperçurent dans une barque, au milieu de l'étang, le corps d'une femme qui paraissait sans vie. C'était celui de Paquette, qui, anéantie, avait perdu connaissance. On la ramena au village où des soins empressés parvinrent, non sans peine, à la ranimer. Durant des années, lors du fatal anniversaire, elle fut obsédée de visions horribles qui, un instant, firent craindre pour sa raison. Le lugubre étang, comme par le passé, resta pendant des siècles un lieu fatal duquel, la nuit, on s'écartait. Chaque année, le premier dimanche de carême, les bûcherons et les laboureurs allumaient sur ses bords, suivant des rites traditionnels, de grands feux de fagots et de chaumes dans le but de chasser les mauvais esprits.
Les anciens du village, baissant la voix, parlaient encore de ces choses il y a quelque 50 ans. Aujourd'hui, l'étang maudit est coupé en deux tronçons par une voie ferrée. S'il s'entrevoit parfois la nuit sur ces eaux purifiées des lueurs bizarres, celles-ci, résultat du progrès, ne sont en général que le rassurant reflet du falot des hommes d'équipe. Les feux follets ont disparu.